quel bonheur, mes enfants, de vous parler ce soir de Noël. Oh, je sais que tout n'est pas gai aujourd'hui pour les enfants de France. Mais je veux cependant vous dire des choses de fierté, de gloire, d'espérance. Il y avait une fois la France. Les nations, vous savez, sont comme des dames plus ou moins belles, bonnes et braves. Eh bien, parmi mesdames les nations, aucune n'a jamais été plus belle, meilleure, ni plus brave que Notre-Dame, la France.
Dans son message de Noël 1940 aux enfants de France et diffusé depuis Londres, le général de Gaulle pose le décor. La France et une certaine idée de la France. Depuis bientôt 40 ans, elle n'a cessé d'inspirer les gaullistes. Leur action politique y puise sa force, fondée sur le refus de l'abaissement de la France, de la compromission dans la défense de ses intérêts. À l'Albert Hall, le 18 juin 1942, le deuxième anniversaire de la France libre, le général de Gaulle explique cette passion.
Jean Faure disait « Les raisonnables ont duré et les passionnés ont vécu. » Voilà 2 ans que la France, quoique trahie et livrée à Bordeaux, continue le combat par les armes, par les territoires, par l'esprit de la France combattante. Pendant ces 2 ans, nous avons beaucoup vécu, parce que nous sommes des passionnés. Mais aussi, nous avons duré. Ah, que nous sommes raisonnables. Nous sommes, dis-je, des passionnés. Mais, en fait de passion, nous n'en avons aucune. La France. Et j'ai dit que nous sommes raisonnables. En effet, nous avons choisi la voie la plus rude, mais aussi la voie droite. Car la patrie se trouve refoulée dans une extrémité telle qu'aucune compromission, aucune transaction n'est concevable. Que serait-elle devenue si Jeanne d'Arc, si Danton, si Clémenceau avaient voulu transiger du désastre à la victoire? La voie droite est le plus court, mais elle est aussi le plus sûr chemin. Voici 2 années que la vague bat en brèche la France combattante. À l'intérieur du territoire, l'oppression, la propagande, la misère se sont liguées pour l'anéantir. À l'extérieur, elle a surmonté bien des difficultés matérielles et morales. Mais voici qu'au-dessus de l'océan émerge la France combattante dans laquelle le monde entier reconnaît la France quand à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante à Bir Hakeim est venu caresser le front sanglant de ses soldats. Pas un homme sur la terre ne s'y est trompé. Nous irons jusqu'au bout de notre tâche nationale. Nous irons jusqu'au bout de la libération. Et quand ce sera fait, alors, ce devoir fini et notre rôle effacé, après tous ceux qui ont servi la France depuis l'aurore de son histoire, avant tous ceux qui la serviront encore dans son éternel avenir, nous lui dirons simplement, comme Peggy, « Mère, voyez vos fils qui se sont tant battus !»
La France, une fois relevée et son autorité restaurée, Georges Pompidou propose d'en faire une grande nation moderne et industrielle. mais il n'oublie pas, loin s'en faut, son rôle dans le monde, sa mission et les moyens qu'il convient de mettre en œuvre pour les assurer.
Je parle très souvent de la nécessité de nous renforcer sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan militaire même. Et alors, cela soulève pas mal de critiques. Les uns me trouvent terre à terre, les autres trop réalistes, auvergnats, etc., etc. Mais je suis tout à fait de votre avis. Autrefois, Rome, l'Empire romain, a vaincu la Grèce. Et puis, il y a eu un poète latin pour écrire, n'est-ce pas, « La Grèce vaincue a conquis son féroce vainqueur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les riches romains avaient pour précepteur un grec. Eh bien, ce n'est pas là mon idéal pour la France. Et je ne crois absolument pas qu'un pays puisse maintenir sa grandeur intellectuelle, culturelle et morale s'il n'y a pas un soubassement de prospérité, de puissance, de richesse humaine, de nombre, etc. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut construire notre puissance si nous voulons défendre notre culture et notre conception de la civilisation. Mais comme notre puissance est longue à construire, en attendant, défendons notre culture et notre langue.
Cette France, chargée d'histoire et de tradition, porteuse d'espoir et de liberté, c'est celle de ces millions de Français auxquels Jacques Chirac s'adresse le 11 février 1978 à la porte de Pantin.
Citoyennes et citoyens de mon pays, vous avez le 12 mars prochain rendez-vous avec l'histoire. Au moment grave entre tous, où il faudra choisir, souvenez-vous que les nations, comme les hommes, sont mortelles. Comme eux, elles peuvent mourir de ne pas avoir su être clairvoyantes ou de ne pas s'être défendues. Vous, le peuple de France, vous qui, après tant de guerres et tant de luttes, tant de peines aussi, avez gagné le droit d'être libre, repoussez de toutes vos forces le sort de ces nations qui s'affaissent et qui sombrent pour n'avoir pas su à temps dénoncer et débusquer le danger et l'adversaire. Vous de Bretagne, de Corse, d'Alsace, vous des plaines de Flandre, aux coteaux de Gascogne, vous des côtes de Normandie, aux rivages de Provence, vous tous, citoyens de mon pays, vous avez reçu en partage une France fière et libre. Vous l'avez enrichie de votre enthousiasme et de votre labeur. Ne l'abandonnez pas demain à l'aventure. Ne la livrez pas à la tempête. Compagnons, mes amis, et vous tous qui êtes ici ce soir, n'écoutez pas les voix du renoncement, de la lâcheté et du doute. Vous n'êtes pas de ceux qui pactisent quand il s'agit de l'avenir de la France. Vous n'êtes pas de ceux qui désertent quand l'adversaire est menaçant et résolu. Vous n'êtes pas de ceux qui baissent les bras et s'abandonnent à la désespérance. Vous êtes le peuple de France. Vous êtes les fils et les filles de ceux qui ont enseigné au monde les chemins de la liberté. Vos villes, vos champs se souviennent encore des combats passés. Il porte témoignage que dans l'orage, vous savez défendre la cause de la liberté. Oui, vous savez ce qu'est le courage. Et le courage demain, c'est de relever l'immense défi que jette à la France l'entreprise collectiviste. À vous l'audace, à vous la résolution, à vous l'espérance, et nous l'emporterons cette victoire dans un mois. Oui, nous devons gagner. Oui, nous allons gagner. Nous gagnerons ensemble cette bataille de France. Vive la République, vive la France.
C'est encore la France indépendante et volontaire qu'il définit le 31 mars 1979 aux Assises nationales du Rassemblement, porte Champéret à Paris.
La France, depuis 1500 ans, a l'habitude d'être une grande puissance. La France ne doit pas se faire plus grande qu'elle est, mais en raison de l'opinion que l'on a d'elle historiquement et qui lui ouvre une sorte de crédit latent quand il s'agit d'universel, elle est par excellence le champion de la coopération internationale, pourvu qu'elle apparaisse comme une nation aux mains libres, dont aucune pression du dehors ne détermine la politique. Cette phrase, mes compagnons, a été écrite il y a 37 ans, en 1942, au plus noir de la nuit. Quelle audace! Elle est signée Charles de Gaulle. Ce qui alors pouvait apparaître comme un vœu et même comme un rêve est devenu réalité par la volonté d'un homme et par l'effort d'un peuple. L'instrument essentiel de cette indépendance est la détention libre de l'arme stratégique atomique. Troisième puissance nucléaire indépendante du monde, la France n'est pas un pays comme les autres. Elle n'est pas un pays comme ses partenaires de la communauté économique européenne. Elle a par ce fait même, par son indépendance, une autre dimension, une autre réalité. La France a acquis le fondement d'une autonomie totale dans sa politique étrangère par ce biais. Contrairement à tous les autres États de l'Europe occidentale, nous ne dépendons pas du bouclier américain. Notre amitié traditionnelle avec les États-Unis ne comporte donc, pour nous, aucune inféodation. Elle ne nous empêche nullement de souhaiter maintenir les meilleurs rapports avec l'Union soviétique. Elle nous permet d'avoir les mains libres, ce qui est la condition même de notre audience et de notre influence dans le monde. Elle nous donne aussi une sécurité incomparable. Quelque confiance que nos partenaires européens puissent avoir dans leur allié américain, l'histoire récente montre clairement comment cette grande nation sait se désengager vite et laisser ses alliés à leur propre sort. Mais notre indépendance, durement acquise, ne l'est pas pour l'éternité. Elle commande la vigilance. Elle comporte que nous consentions les sacrifices nécessaires pour entretenir et moderniser continuellement notre force de dissuasion nucléaire. Pour ce qui nous concerne, partout et toujours, nous serons des défenseurs intransigeants de l'indépendance effective de la nation, parce que c'est ce qui fait de la France autre chose que la plupart de ses partenaires, c'est ce qui lui permet d'avoir une politique étrangère, c'est ce qui lui permet de délivrer et de continuer à délivrer le message humaniste qui a toujours été le sien dans le monde. Telle est donc notre deuxième idée de la France. Enfin, ce pays, fort et indépendant, ne doit pas vivre replié sur soi. Lui que la géographie a jeté face au large, comme la proue de l'Europe, doit être largement ouvert sur le monde. La France, en effet, n'est pas enfermée dans l'Europe. Son histoire, sa langue, les amitiés qu'elle a tissées au cours des siècles, en Europe, en Afrique, en Amérique, sa présence physique, au travers de tous les continents, de tous les océans, par ses départements et des territoires d'outre-mer, le prestige qu'elle y a acquis pour avoir été la première patrie des droits de l'homme, la patrie de la liberté offerte au monde, aussitôt qu'inventée, tout cela fait d'elle un pays que l'on ne peut confiner et provincialiser dans les frontières d'une petite Europe. Aussi bien La Charte des Nations Unies a-t-elle constaté ce rôle en faisant de la France l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, lui conférant ainsi, outre le droit de veto sur les décisions, des responsabilités particulières éminentes dans le maintien de la paix et dans l'ordre international. Ce n'est donc pas par un nationalisme suranné que nous évoquons cette place de la France inscrite dans les règles du droit international public. C'est parce que cela correspond à une réalité, et je dirais même à un besoin de l'ordre international. Des États de plus en plus nombreux répugnent à l'opposition frontale du monde en deux blocs. Ils répugnent plus encore à jouer les vassaux de l'une ou de l'autre des superpuissances. La France leur montre une autre direction, une autre façon d'être, sans l'impérialisme, sans la satellisation. La preuve, s'il en était besoin, serait trouvée dans les relations intenses, mais respectueuses de l'indépendance de chacun que la France entretient avec les États qui, un moment, ont partagé son histoire. Regardons la réalité en face. Les grandes puissances qui interviennent sur la scène internationale manœuvrent les autres États ou les pays en voie de développement comme des pions qui ne pèsent qu'en fonction de leur intérêt stratégique ou des ressources qu'on peut y exploiter. La France, sous l'impulsion du général de Gaulle, sous celle de Georges Pompidou, a inventé un autre dialogue avec ces pays, fait du respect total de leur conception et animé de la seule volonté d'œuvrer librement en commun. Ces peuples ne souhaitent pas que la France se replie sur l'Europe et s'y calfeutre comme une sorte d'égoïsme régional, parce qu'ils sont légitimement fiers de leur indépendance nationale. Ils souhaitent que la France reste cette nation attentive au monde et qui, dans le concert international, fait souvent entendre une autre voix. Restez ce peuple partout présent, partout à l'écoute de ce qui se fait ailleurs, prêt à échanger des marchandises, certes, mais aussi des idées et une certaine conception du respect dû aux hommes. Restez ce peuple acceptant toutes les alliances que font l'intérêt réciproque des États, mais refusant toutes les allégeances et toutes les soumissions. Telle est notre troisième idée de la France.
Ni étriquée ni chagrine. Au contraire, la France des gaullistes est généreuse. Elle invente la coopération. Elle invente la détente. Elle réconcilie enfin la France et l'Allemagne, rendant possible l'organisation de l'Europe. D'une Europe indépendante et respectée, la seule qu'ils acceptent, parce que la seule qui vaille. Une Europe dans laquelle la France tiendra toute sa place. Le général de Gaulle, dans sa conférence de presse du 28 octobre 1966.
Dans le monde tel qu'il est, on a quelquefois allégué les changements, les détours, les soi-disant changements et détours de l'action de la France au dehors. Et même il y en a qui ont parlé de contradictions ou de machiavélisme. Eh bien, cependant, je crois que si les circonstances changent autour de nous, en vérité, il n'y a rien de plus constant que la politique de la France. Cette politique, en effet, à travers les vicissitudes très diverses que nous présente notre temps et notre univers, cette politique tend essentiellement à ce que la France soit et demeure une nation indépendante. Pourquoi ? Pour qu'elle joue son rôle à elle dans le monde. En vue de quoi ? En vue de l'équilibre, du progrès et de la paix. Ça ne veut pas dire, bien entendu, contrairement à ce que certains affirment, que nous voulions rester isolés et que jamais nous ne voulions lier notre action à celle des autres. Bien au contraire, nous n'avons pas vécu aussi longtemps et aussi durement comme peuple au milieu des peuples, sans avoir appris que nos moyens ont leurs limites, que notre géographie nous expose à de grands périls, que notre économie exige des échanges, que notre progrès est conjugué avec celui de l'humanité, que par conséquent, il nous faut nécessairement coopérer avec des partenaires. Mais l'indépendance, cela signifie que ce que nous jugeons bon de faire, et avec qui, nous en décidions nous-mêmes, sans que cela nous soit imposé par aucun autre État et par aucune collectivité.
On le voit, l'Europe des gaullistes est bien différente de celle qu'ont toujours défendue les adversaires du général de Gaulle. Ceux à qui, le 15 mai 1962, le général répondait.
Mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries. Bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais. Et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens, Allemands et Français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégré. Alors, il est vrai que la patrie est un élément humain sentimental et que c'est sur des éléments d'action, d'autorité, de responsabilité qu'on peut construire l'Europe. Quels éléments? Eh bien, les États, car il n'y a que les États qui, à cet égard, soit valable, soit légitime, et en outre soit capable de réaliser. J'ai déjà dit, je répète, qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades. D'ailleurs, ce qui se passe pour la communauté économique le prouve tous les jours. Car ce sont les États, et les États seulement, qui ont créé cette communauté économique.
La supranationalité, le général de Gaulle la condamnait encore le 9 septembre 1965.
Or, on sait, Dieu sait si on le sait, qu'il y a une conception différente au sujet d'une fédération européenne dans laquelle, suivant les rêves de ceux qui l'ont conçue, les pays perdraient leur personnalité nationale et où, d'ailleurs, faute d'un fédérateur, comme tentèrent de l'être, chacun d'ailleurs à sa façon, César et ses successeurs, Charlemagne, Othon, Charles Quint, Napoléon, Hitler, et tel qu'à l'Est s'y essaya Staline. Faute de ce fédérateur, eh bien, la fédération européenne serait régie par un aréopage technocratique, apatride et irresponsable. Et on sait aussi que la France oppose à ce projet qui paraît vraiment en dehors de la réalité, oppose le plan d'une coopération organisée des États, laquelle évoluerait probablement vers une confédération C'est en effet ce plan qui nous paraît seul répondre à ce que sont réellement les nations de notre continent, ce qu'elles sont à l'heure qu'il est, ce qu'elles sont au siècle où nous sommes.